Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus. »
Au fond, à quoi servent les chrétiens ? Alors, en ce jour de la Pentecôte, on a l'habitude de rappeler cet acte historique de Dieu par lequel il a répandu son esprit sur son peuple, l'Église. Et ce que nous allons voir, je l'espère, ce soir, c'est que cet événement de la Pentecôte, il nous renvoie vraiment à l'essentiel de ce qu'est notre vocation en tant que chrétien, et même, on pourrait dire, de ce qu'est notre identité en tant que chrétien. Et donc, si on se demande parfois à quoi on sert, et peut-être que c'est légitime qu'on se pose parfois la question, eh bien, nous devrions nous pencher sur cet événement de la Pentecôte, et c'est ce qu'on va faire donc ce soir, en dérogeant un peu à la règle, puisque souvent, c'est au chapitre 2 du livre des Actes qu'on va pour parler de l'événement de la Pentecôte, puisque c'est ce texte qui nous parle en détail de la manière dont le Saint-Esprit a été répandu sur les disciples qui étaient rassemblés à Jérusalem. Donc en acte 2, on a cet acte historique, public, assez spectaculaire de l'effusion de l'Esprit sur le peuple de Dieu. Et c'est pour ça que, généralement, le jour de la Pentecôte, c'est sur ce texte-là qu'on prêche. Je me suis dit que cette année, on pouvait faire une exception et parler d'un autre épisode plus discret qui évoque également cette venue du Saint-Esprit et ce qu'elle implique. Et c'est donc ce texte que Christelle nous a lu dans l'Évangile de Jean. Alors, on va se reposer la question à quoi servons-nous à partir de ces quelques versets ? Et ce que je vous propose de voir, c'est que dans ce texte, Jean nous donne un premier aperçu de la vocation de l'Église, dans un sens, le peuple de Jésus-Christ comme étant un peuple envoyé par Jésus, rendu puissant par le Saint-Esprit, pour être porteur de la réconciliation divine. Voilà, les trois parties de cette phrase seront trois points que nous allons voir brièvement ce soir. Et donc, premièrement, un peuple envoyé par Jésus. Alors ce texte, vous l'avez entendu, vous l'avez lu, il nous replace au jour même de la résurrection de Jésus. Tôt le matin, Jésus, sorti vivant du tombeau, est apparu à plusieurs femmes parmi ses disciples. L'évangile de Luc nous apprend qu'ensuite il est apparu à deux disciples qui se rendaient au village d'Emmaüs, non loin de Jérusalem. Luc nous précise également que Jésus, au cours de cette même journée, est apparu à Pierre, même si Luc ne nous décrit pas cette rencontre. Et là, ce texte dans l'évangile de Jean, cette fois, au verset 19, nous dit que le soir de cette même journée, Jésus est apparu aux disciples rassemblés dans un même lieu. D'ailleurs, Luc parle également de cette rencontre. Et donc, pour les disciples qui n'avaient pas encore vu Jésus ressuscité, c'était le cas de la plupart d'entre eux, il n'y a plus de doute possible là. Jésus se présente à eux, il se présente à eux en chair et en os, il va d'ailleurs leur montrer ses mains, son côté, pour leur montrer que c'est bien lui et qu'il est bien là physiquement et non pas comme une simple apparition, un peu comme un fantôme. Donc Jésus est là et il les salue avec une salutation très habituelle dans un contexte sémitique, que la paix soit avec vous. Alors c'est une salutation qui était habituel et qui pourrait apparaître banal, sauf que Jésus, il me semble, donne ici tout son sens à ces mots. Que la paix soit avec vous. Déjà, au chapitre 14 du même évangile, Jésus avait dit à ses disciples, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Il parle là d'une paix qui vient d'une relation avec Dieu que même la mort n'a pas pu défaire. Donc ce n'est pas une paix zen, entre guillemets, comme on l'entend souvent aujourd'hui, une paix vue comme une sorte de détachement. Mais ici, c'est au contraire une paix qui est un attachement à un Dieu tout-puissant et souverain. Et Jésus va répéter ce vœu de paix, que la paix soit avec vous. Ce qui montre qu'il donne tout son sens à ces mots. et qu'il ne le dit pas simplement comme une formule toute faite. Et il poursuit immédiatement avec ces paroles, verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » On reviendra un petit peu plus loin sur la première partie de cette phrase, « Comme le Père m'a envoyé. » Je voudrais qu'on s'attarde un peu sur la seconde partie, « Je vous envoie. » Quand on lit ce passage un peu vite, ou peut-être parce qu'on est habitué pour certains à le lire, on peut ne pas voir que Jésus donne ici un commandement plein d'autorité. Il ne suggère pas à ses disciples quelque chose. Il ne dit pas « ça serait peut-être bien que… » Non, il dit « je vous envoie ». C'est plein d'autorité. Et c'est important, lorsque quelqu'un veut nous envoyer quelque part, de savoir quelle est l'autorité de cette personne pour le faire. Dans la vie courante, on réagit très différemment à une demande d'envoi, à un envoi selon qui nous envoie. Si vous croisez un parfait inconnu dans la rue qui vous dit « tiens, est-ce que tu pourrais aller… » dans tel arrondissement, acheter telle chose pour moi, vous risquez de ne pas très bien réagir. Ou bien si quelqu'un vient vous voir au travail qui est sur le même plan hiérarchique que vous, ou bien entre guillemets en dessous de vous, et qui vous dit « tiens, un tel, est-ce que tu pourrais aller à Lyon demain pour aller dans tel bureau, signer tel contrat avec telle personne ?» Vous allez dire « mais qui te permet de faire cette demande ?» Par contre, si c'est votre chef qui formule cette demande, vous allez la prendre, j'imagine, beaucoup plus au sérieux. Eh bien ici, si on peut faire cette comparaison, celui qui envoie, il a toute autorité pour envoyer. Il est ressuscité, il a vaincu la mort. On ne peut pas concevoir une plus grande autorité que celle qui est la sienne ici. Et c'est quelque chose dont nous devons nous rappeler, je pense. Il peut arriver qu'on commence à penser que la mission chrétienne, finalement, elle est peut-être réservée à une élite spirituelle, tandis que la plupart des chrétiens doivent simplement vivre leur vie comme bon leur semble, de temps en temps lire la Bible, de temps en temps prier, ça ne fait pas de mal. Mais Jésus, ici, n'est pas du tout dans ce registre-là, et il ne suggère pas une mission, il nous envoie. Alors là, quelqu'un objectera peut-être, je sais que vous avez l'esprit critique, et c'est très bien, et quelqu'un dira peut-être, est-ce que l'envoi du verset 21 nous concerne vraiment ? Est-ce que ce n'est pas à ses premiers disciples que Jésus s'adresse exclusivement ? Alors c'est vrai que les apôtres, les premiers disciples envoyés par Jésus dans le monde pour être ses témoins oculaires de sa résurrection, témoins oculaires de son ministère public, ils ont eu un rôle unique, incomparable. Jésus les a mandatés donc en tant que témoins pour qu'ils attestent ce qu'ils ont vu et entendu, pour qu'ils fondent, qu'ils posent ainsi les fondements de l'Église. Mais précisément, si Jésus a envoyé des apôtres pour rendre témoignage de lui, c'est pour que toutes les générations suivantes puissent à leur tour proclamer son message. Aucun chrétien, donc, ne peut prétendre qu'il n'est pas concerné par cet envoi que Jésus adresse ici. Et une preuve, s'il en fallait, c'est que Jésus ne va pas donner le Saint-Esprit uniquement aux apôtres, mais à tous ceux qui placent leur foi en lui. Et c'est ce que nous montrera le livre des Actes, c'est ce que nous montrera le reste du Nouveau Testament. Or, notre texte montre qu'il y a un lien entre l'envoi et le don du Saint-Esprit. L'envoi, donc, par Jésus de ses disciples et le don du Saint-Esprit, verset 21. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Et qu'est-ce qui vient juste après, au verset 22 ?« Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Alors, qu'est-ce qui se passe ici, dans ce petit épisode ? Pour essayer d'y voir plus clair, on va aller au second point. Un peuple rendu puissant par le Saint-Esprit. Alors, je reviens à l'image que j'ai donnée plus tôt. Si votre patron vous dit « Allez à Lyon, dans telle branche, pour voir un tel, et puis revenez me voir », mais qu'il ne vous donne aucune information, aucune aide, aucun soutien, qui vous s'attend à ce que vous vous débrouilliez de A à Z et que vous utilisiez toutes vos propres ressources, ça va être quand même un petit peu difficile de faire face à cette mission. Par contre, s'il vous donne un dossier complet, il prend le temps de vous expliquer exactement ce qu'il en est, en plus, il réserve vos billets de train, il vous paye l'hôtel, il met en place le rendez-vous, ça va être quand même beaucoup plus agréable d'une part, mais surtout, ça va être beaucoup plus envisageable de pouvoir mener à bien cette mission. Si Jésus fait un lien entre l'envoi qu'il adresse ici et le don du Saint-Esprit, c'est parce qu'il sait que l'Esprit donnera à ses disciples tout ce dont ils ont besoin pour répondre à son appel et aller là où il les envoie. Maintenant, que penser de ce bref épisode que Jean est le seul à raconter parmi les évangélistes et qui se situe plusieurs semaines avant l'épisode plus connu de la Pentecôte, acte 2, quand l'Esprit a été répandu de manière publique et spectaculaire sur tous les disciples de Jésus. Alors les spécialistes ont quelques discussions à ce sujet. Certains qui adoptent une lecture plutôt critique, sceptique de la Bible, estiment que Jean a inventé ce petit épisode. Il nous donne ici sa version de la Pentecôte. Jean, d'après eux, dans sa vision des choses, veut montrer quel est le lien entre la résurrection et le don de l'Esprit. Et donc, il veut montrer que c'est Jésus lui-même. Donc, il met en scène, en quelque sorte, Jésus qui donne son Esprit aux apôtres. Alors, d'une part, à titre personnel, et c'est le cas de beaucoup d'entre nous ici, et c'est la conviction de notre Église, c'est qu'on peut faire confiance aux Écritures, que les auteurs des Écritures ne s'amusent pas à inventer comme ça des épisodes et à les présenter comme des épisodes historiques. Mais par ailleurs, c'est une lecture qui me semble peu convaincante, et je dirai pourquoi dans un instant. D'autres personnes qui maintiennent le caractère historique des deux épisodes estiment que Jésus, il a d'abord donné son esprit en petit comité, en quelque sorte, à ses apôtres. Et puis ensuite, il y a eu un acte plus large pour un groupe plus grand des croyants réunis lors de la fête de la Pentecôte. Et donc, il y a eu en quelque sorte deux événements qui ont le même sens, mais qu'il faut maintenir en fait que les deux fois, l'esprit a été répandu. Cette lecture aussi, elle pose quelques problèmes. Alors, d'abord, on constate que l'un des apôtres, Thomas, n'est pas là lors de cette première intervention de Jésus avec les disciples réunis. Et comme on l'a vu il y a quelques semaines, lors du dimanche de Pâques, Jésus est revenu une semaine plus tard, dans le même lieu. Il a dit la même chose d'ailleurs, que la paix soit avec vous, et pour permettre à Thomas de devenir lui aussi témoin de sa résurrection. Pour s'assurer qu'aucun de ces apôtres n'était laissé à l'extérieur. Or, ce qui est intéressant, c'est que rien n'est dit de l'Esprit-Saint lorsque Jésus apparaît à Thomas. Alors, est-ce que Jésus a répété son geste? Est-ce qu'il a à nouveau soufflé pour que Thomas puisse avoir l'Esprit? Ou bien, et simplement Jean ne nous en parle pas, ou bien est-ce que Thomas n'a pas reçu l'Esprit? Tant pis pour lui, il aurait dû être là la semaine précédente. En somme, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que Jésus n'a pas attendu que tous ses apôtres soient réunis pour répandre sur eux l'Esprit. Deuxièmement, et de manière plus décisive, une autre raison pour laquelle ces deux interprétations que j'ai citées ne me semblent pas convaincantes, c'est que la fin de l'évangile de Jean ne nous donne pas l'impression d'un changement fondamental encore dans la vie des disciples. Alors oui, ils sont remplis de joie parce que Jésus est ressuscité. Ils ont repris courage, ils ont retrouvé l'espérance. Mais on a le sentiment que leur mission n'a pas encore commencé. Et d'ailleurs, au chapitre 21, on les voit dans leur région natale, en Galilée. Ils sont retournés à leur métier, la pêche. Donc, on a le sentiment qu'ils attendent encore quelque chose. Et le contraste est assez net avec ce qui va venir après la Pentecôte, où là, ils vont aller tous proclamer la bonne nouvelle aux quatre coins du pays et puis du monde entier tel qu'il était connu à l'époque. Donc, on a le sentiment qu'il y a encore une attente. Alors, comment comprendre cela? L'explication qui paraît la plus probable, c'est que Jésus, dans ce petit épisode de l'évangile de Jean, il donne un signe du don de l'Esprit qui allait venir et qui allait être réellement manifesté à la Pentecôte. Jésus aimait bien les actes symboliques. On le voit lorsqu'il se met à laver les pieds de ses disciples pour leur exprimer qu'il est venu pour être leur serviteur et pour les élever de l'abaissement dans lequel ils se trouvaient à cause de leurs péchés. Jésus donne ainsi une petite parabole de ce qu'il est venu faire pour les hommes. Il est venu, lui, s'abaisser, se présenter comme serviteur pour nous élever. Ça, c'est un des signes que Jésus a donné. Il y en a plusieurs autres. Il demande à ses disciples de manger du pain et de boire du vin en souvenir de son corps offert et de son sang versé, comme nous le célébrons ici à la rencontre du dimanche soir une fois par mois. Eh bien ici, Jésus semble donner en petit comité un signe visible de la transformation qu'il va opérer à plus grande échelle en envoyant son esprit lors de la Pentecôte, lorsqu'il va envoyer son esprit conjointement avec le Père. Alors comment comprendre ce signe? Verset 22, il souffla sur eux. Peut-être un peu, on essaie de visualiser un peu la scène, c'est un peu étonnant. Verset 22, et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Pourquoi ce souffle ? Pour bien comprendre ce signe, il faut d'abord être conscient que dans la pensée biblique, souffle et esprit sont directement liés. D'ailleurs, c'est le même mot hébreu qu'on traduit généralement par esprit, mais qui peut aussi vouloir dire simplement souffle. Et puis, sans doute, faut-il revenir au début de la Genèse. Voici ce que nous dit Genèse, chapitre 2, verset 7. Le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors là, si vous me permettez un tout petit point technique, il y en a vraiment pour quelques secondes, et je pense que ça a sa pertinence. Le mot que Jean utilise dans le texte grec pour décrire le souffle de Jésus est le même mot qui est utilisé dans le livre de la Genèse, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, qui était très répandue à l'époque, que Jean utilisait, entre autres. Eh bien, c'est le même mot qui décrit le souffle dans Genèse 2 et qui est utilisé pour décrire le souffle de Jésus dans Jean chapitre 20. Alors, vous me direz, d'accord, quel intérêt de savoir cela ? Je crois que ça a son intérêt parce que Jésus montre ici, il donne un signe justement, et ce n'est pas anodin. Il montre que le Saint-Esprit, il ne se contente pas d'équiper ses disciples pour une mission, mais il les fait revivre. Et c'est cette vie nouvelle qui vient de Dieu, cette vie que le Créateur donne à nouveau, qui est au cœur de la mission de Jésus. Dans un monde sous l'emprise du mal, de la révolte humaine contre son Créateur, Jésus envoie ses disciples, mais il les rend puissants d'une vie qui vient de Dieu lui-même. C'est comme s'il y a un acte de recréation ici, comme si Dieu infiltrait dans un monde sous l'emprise de la mort et du péché la puissance de vie du monde à venir. Et donc, au-delà de tous les débats que les chrétiens peuvent avoir sur la manière dont l'Esprit œuvre dans nos vies, dans nos églises, je crois qu'il faut se saisir à nouveau de cette vérité essentielle, c'est que l'Esprit est venu pour nous donner une vie nouvelle et il nous envoie diffuser cette vie nouvelle. Et justement, diffuser cette vie nouvelle, c'est ce qui est au cœur de notre mission et ça nous amène à notre troisième point, un peuple porteur de la réconciliation divine. Pour bien comprendre la mission chrétienne, je crois qu'il faut revenir au verset 21. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, dit Jésus. » C'est un élément incontournable pour comprendre cette vocation. Jésus nous envoie comme le Père l'a envoyé. Donc il y a un lien très fort entre la mission de Jésus, lui-même envoyé, et la mission qu'il confie à ses disciples. En fait, je crois que le reste du Nouveau Testament nous montre que c'est bien la même mission. Notre mission, c'est la mission de Jésus. Jésus nous invite à participer à sa mission. L'évangile de Matthieu, tout à la fin, après la résurrection de Jésus, au moment où il envoie ses disciples, voici ce qu'il leur dit. « Allez et faites de toutes les nations mes disciples. » On note au passage qu'il ne dit pas « vos disciples », mais « mes disciples ». Et il termine en disant « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 19 et 20. Mais cette mission, Jésus lui-même l'a reçue du Père. « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. » Alors, quelle est-elle, cette mission ? Eh bien, dans ce même évangile de Jean, on trouve l'un des versets les plus souvent cités de la Bible qui nous en donne un résumé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jean poursuit au verset suivant. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, versets 16 et 17. Dieu a envoyé le Fils pour sauver le monde de la mort et lui donner la vie éternelle. Voilà le sens le plus essentiel de la venue de Jésus. Il est venu donner la vie, ramener la vie là où la mort régnait. Et il invite chacun à saisir cette vie par la foi. Et c'est le sens de la croix et de la résurrection, ôter la faute qui conduit à la condamnation et à la mort et faire triompher à nouveau la vie qui vient du Créateur. Alors nous n'avons pas, nous, à accomplir cette œuvre de pardon des péchés, d'expiation, d'effacement des péchés. C'est Jésus qui a fait cela à la croix pour nous. Mais Jésus nous confie par l'Esprit Saint ce message puissant par lequel Dieu va diffuser son pardon partout dans le monde. Il invite par ce message à saisir la réconciliation que Dieu offre et à connaître la vie nouvelle qui vient avec cette réconciliation. Dans notre culture marquée par l'omniprésence d'Internet, vous avez sûrement entendu parler de ce qu'on appelle quelque chose qui devient viral, qui se diffuse comme un virus. Alors il y a un exemple particulièrement frappant, c'est cette chanson du rappeur sud-coréen Psy, Gangnam Style. On ne va pas la chanter maintenant, mais qui a été vue, j'ai dû m'y reprendre à deux fois parce que je ne le croyais pas au début, qui a été vue 2,5 milliards de fois, je crois que c'est le record absolu, sur le site de vidéos en ligne YouTube. Donc statistiquement, un être humain sur trois, et même un peu plus, a regardé cette vidéo. Alors, sans doute en fait moins, puisque certains l'ont peut-être regardé en boucle plein de fois. Je ne suis pas certain que Gangnam Style mérite intrinsèquement un tel succès. Sur le plan du message, c'est vrai que je ne comprends pas le coréen, mais sur le plan du message qui est communiqué, ni sur le plan musical et esthétique, qu'on peut apprécier toutefois. Mais il y a eu un emballement extraordinaire, et c'est vrai que le phénomène a vraiment pris comme une traînée de poudre. Et on a entendu ça à longueur de journée à la radio. Notre culture contemporaine, mondialisée, aime beaucoup diffuser des messages en tout genre. C'est frappant de voir, avec cet exemple-là, qu'un message peut être diffusé très rapidement dans le monde. Et ça devrait nous interpeller en tant que chrétiens. Parce que si nous sommes chrétiens, nous croyons que nous avons reçu de Jésus-Christ lui-même et que nous sommes appelés à diffuser un message radicalement autre, un message puissant, non pas puissant en théorie seulement, mais authentiquement puissant, parce qu'il est porteur de la réconciliation de Dieu avec les hommes, porteur de la vie nouvelle que le Créateur nous offre. Et je crois que c'est le sens du verset 23. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus. C'est un texte assez difficile, assez débattu. Difficile parce que, qu'est-ce que Jésus nous dit là? Est-ce qu'il dit que les disciples peuvent eux-mêmes pardonner les péchés, refuser le pardon selon leur gré, d'une certaine manière, que le sort des uns et des autres va dépendre du bon gré des disciples qui vont décider de pardonner ou de ne pas pardonner? Est-ce que c'est ça que Jésus veut dire? Un premier élément, il me semble que ça ne cadre pas avec tout ce qu'on voit par ailleurs sur le pardon des péchés qui, dans la Bible, relève de l'autorité de Dieu et de Dieu seul. C'est justement ce qui a scandalisé ceux qui ont condamné Jésus, c'est qu'il affirme notamment qu'il pardonnait les péchés. Alors un indice, je crois, nous met sur la voie d'une juste compréhension de ce texte. De manière étonnante, Jésus utilise deux temps différents. À qui vous pardonnerez les péchés futurs, ceux-ci sont pardonnés, présents. Et même chose pour l'inverse, à qui vous les retiendrez, ils sont retenus. On note aussi le passif, ils sont pardonnés, ils sont retenus. Je crois que cette façon de parler montre que c'est bien Dieu qui pardonne souverainement les péchés ou qui retient les péchés. Mais les disciples sont envoyés pour mettre en évidence cette œuvre divine et pour aller récolter la moisson de Dieu, pour en prendre une autre image biblique. Les disciples sont appelés à proclamer le message par lequel Dieu va pardonner et retenir les péchés des hommes. C'est Dieu qui a autorité sur le positionnement spirituel de chacun et c'est libérateur de le savoir. Mais en même temps, nous devons prendre conscience de la responsabilité que cela implique d'être porteur de ce message. Si on vous confie quelque chose de très précieux à apporter à quelqu'un, quelque chose qui ne vient pas de vous, mais on vous confie cela. Par exemple, un exemple, un médicament qui peut sauver la vie de quelqu'un. Ce n'est pas vous qui avez mis au point ce médicament, mais on vous le confie et vous devez l'apporter à quelqu'un. Vous n'êtes pas responsable de l'effet du médicament sur la personne. Ce n'est pas votre responsabilité. Par contre, vous êtes bien responsable d'acheminer le médicament. Et ça, c'est une tâche que vous devez prendre au sérieux. Eh bien, si vous me permettez donc cette comparaison, Dieu nous confie le message par lequel il va sauver. C'est lui qui sauve. Et il est souverain même sur ce processus de diffusion du message, nous le croyons. Mais en même temps, il nous a confié cette responsabilité. Et nous n'avons pas le droit de prendre cela à la légère. Et on n'a pas le droit de garder pour nous ce message que Jésus nous a confié. Alors peut-être que certains se sentent mal à l'aise en entendant cela. Il y a des personnes, on peut se dire, il y a des gens qui œuvrent à plein temps pour la diffusion de l'Évangile. Il y a des missionnaires qui partent dans le monde entier, mais ce n'est pas le cas de la plupart des chrétiens. Et on peut se dire, mais comment est-ce que je vais retrouver ma place dans cette mission quand je fais face aux contraintes habituelles du quotidien ? Métro, boulot, dodo, sortie d'école, week-end chez les beaux-parents. Comment est-ce que je vais trouver, face à ce banal quelque part de la vie, comment est-ce que je vais trouver ma place dans la mission de Jésus ? Je crois que la clé, c'est de voir que dans ce texte, Jésus ne donne pas à ses disciples une checklist, une liste de tâches à accomplir. Il nous donne son pardon. Il nous donne une vie nouvelle. Une vie nouvelle qui, si elle est vraiment vécue, ne peut qu'être exprimée, visible, contagieuse. Et je crois que nous pouvons chacun, dans nos contextes, dans nos circonstances, trouver bien des moyens de refléter cette vie nouvelle et de la communiquer. Il y a de nombreuses façons de témoigner. Parfois, ça commence par une autre manière de réagir. Les chrétiens, je crois, sont appelés à surprendre, à ne pas rentrer dans les cases toutes faites. C'est triste parfois de voir le désir des chrétiens de se conformer en toute chose au monde dans lequel nous sommes, alors que précisément notre vocation, c'est de surprendre. Précisément, c'est de ne pas rentrer dans les cases auxquelles on s'attend. Parfois, ça commence par une autre manière de réagir. Une attention apportée, par exemple, là où l'autre s'attend à de l'indifférence. Un service rendu alors qu'il n'y a aucune contrepartie. Une attitude de grâce plutôt que de vengeance. Je pense que nous sommes régulièrement donc invités à surprendre ceux qui nous entourent par notre bonté, notre douceur, notre esprit de service, notre absence d'amertume, notre amour, notre espérance, notre façon différente de voir les choses également, et y compris quand ça dérange. Ces gestes et attitudes, parfois, ce n'est pas grand-chose en soi, mais ce sont comme les indices d'une autre vie, d'un autre monde. Alors nous vivons dans un monde, dans une ville aussi profondément marquée par la solitude, le cynisme, l'absence d'espérance. Alors demandons à Dieu de nous aider à nous ouvrir pleinement à l'œuvre de son esprit, pour que nous puissions nous mettre en mouvement, pour que sa bonne nouvelle devienne virale, et que des centaines, des milliers, des millions de personnes dans notre pays, dans notre monde, se tournent vers lui et reçoivent cette vie nouvelle qu'il offre à qui veut la saisir.